double.
Mais oui, mais, mais vous vous complétez l'un l'autre, on le sait.
Bien, on n'avait pas répété. On n'avait pas répété, mais en effet, ce que racontent tous les spécialistes du Rwanda, c'est la machette dans une main, le transistor dans l'autre. Voilà. Et ça, on est vraiment. C'est pour moi vraiment la question qui est posée aujourd'hui, d'où les alarmes que nous posons quand nos dirigeants, certains venus de la gauche, donc il n'y a pas que la droite, flirtent avec ça. Flirtent avec, par exemple, cette idée de l'identité. On a tous des identités, mais c'est des identités en relation. On est fait de toutes sortes d'histoires, comme notre cuisine, comme notre langage, comme toutes nos histoires familiales. À partir du moment où on s'ancre dans une identité à racines uniques, on s'oublie soi-même, on se perd soi-même.
On continue, Sacha.
Est-ce qu'on ne ressent pas parfois un peu de découragement quand on voit que la dernière bafouille de Pascal Pro a... pas plus d'impact, mais plus de retentissement qu'une enquête qui est dans le vrai sur l'extrême droite, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de lassitude ? Enfin...
Je ne sais pas. Il y a des... D'abord, il faut essayer. Il faut faire ce qu'on doit faire. Le pire reproche qu'on puisse se faire, c'est de ne pas l'avoir fait. C'était formidable, la phrase du César du meilleur rôle masculin. Ah ouais. Arié, j'ai oublié son nom, qui est pour le rôle de Pierre Goldman et qui, en appelant au cessez-le-feu à Gaza, a dit les choses s'empirent parce qu'on n'a pas essayé. Il faut d'abord essayer. C'est d'abord parce qu'on ne fait pas, parce qu'on n'agit pas. Donc d'abord, voilà, et c'est la différence avec la politique professionnelle, hein, qui pense est-ce que je vais être élu, est-ce que je vais y arriver. Ben non, faut essayer, faut faire ce qu'on doit faire à la place où on est. Ensuite. Je sais pas, il y a des bulles comme ça, des bulles d'audience, des bulles. Vous savez, si les autorités de régulation prennent leurs responsabilités sur C8 et sur CNews, bah Hanouna reviendra là où il devait rester, hein, sorte d'amuseur. Parce que il y a, je dis ça, les gens qui ont accepté dans le passé à aller à ce genre d'émissions, qui se prétendent populaires, il y a un grand mépris du peuple dans ces émissions-là. Il y a une dignité populaire. Le peuple, c'est pas la vulgarité, la grossièreté, la méchanceté. Il y a quelque chose qui, moi, me choque beaucoup dans cette idée. Faire peuple, ce serait ça. Non, c'est faire du fric. Et sur de la saloperie.
Oui, parce qu'eux, ils parlent des bobos. Il y en a qui parlent de boubours. Eux, c'est les bourgeois bourrins. Voilà. Pour faire populaire, ils font les bourrins.
Ah, je connaissais pas ça.
Ah ouais ?
Non, je l'ai... Boubours, ok. Non, c'est retenu. Claire avait une question à poser.
Oui, je voulais revenir sur cette idée des digues intellectuelles qui sautent. Et lorsque la loi immigration est passée, vous avez écrit un billet sous le titre « Quand le macronisme s'est révélé être un lepénisme ». Donc, quelle responsabilité vous mettez justement au macronisme, à ce qui fait de déstructuration des idées dans la progression de l'extrême droite et dans le fait que ouais, bah, les digues...
Le confusionnisme.
Oui, voilà, exactement.
Ça a commencé sous la présidence Hollande. Il est très sympathique, François Hollande, je le connais bien. Dans le passé, monsieur Petite Phrase, mais quand il cède déjà, lui, sur la préférence nationale, sur la déchéance de nationalité,
c'est ça, la déchéance
pardon,
de nationalité,
ça veut dire
oui.
Pas la préférence nationale.
Il l'a regretté plus tard.
Sur la déchéance de nationalité, il fait une brèche. Parce que la préférence nationale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est là où on commence. Hein, on commence à faire tomber l'universalité des droits et on mine l'égalité. Après, ça concernera tout le monde. Voilà. Donc pour moi, j'avais dit sous la présidence Hollande, ça visait surtout son premier ministre Manuel Valls. Je vais vous faire une confidence. Je connais François Hollande depuis tout petit, j'allais dire, il est un peu plus jeune que moi. Quand j'ai commencé mes enquêtes en 82, le journalisme qui me vaut à la fois des amis et des ennemis, François Hollande n'était pas en politique, il était en cabinet ministériel. Dans notre métier, souvent, les bonnes sources, c'est pas le ministre, hein, c'est pas la politique, ouais. C'est derrière, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai connu.
Comme source.
C'est que, oui, comme, voilà. Et puis. Et puis,
ouais, il est bavard, hein, ça, pour pas dire. Ouais,
il faut recouper. Ouais. Il faut recouper. Et puis, c'est ce qu'il fait, alors que je tiens plutôt à distance le monde politique que je le tutoie. Voilà. Et François Hollande, quand il est devenu premier secrétaire, donc il connaissait mon travail, quand j'ai été entre Le Monde et Mediapart, donc j'étais sans journal que je pouvais embêté en faisant ça. Il m'a proposé un livre d'entretien. Nous avons fait un livre d'entretien qu'on peut relire et où les réponses de François Hollande sont intéressantes. Ça s'appelle « Devoir de vérité ». Et à un moment, je le vois dire « Ah, le problème du Parti socialiste, c'est que ceux qu'on aimerait y voir, alors c'était une phrase pour séduire des copains à moi ou d'autres gens comme ça, ceux qu'on aimerait y voir n'y sont pas, et ceux qui y sont, il y en a qu'on n'aimerait pas y voir. » Ah, je lui dis, ah bon, mais à qui tu penses? À qui tu penses que tu aimerais pas voir au Parti Socialiste? Et là, il me cite deux noms. Jean-Christophe Cambadélis et Manuel Valls. Voilà. De l'un, il va faire
Premier ministre et l'autre président de la Cour des comptes.
Premier secrétaire du Parti Socialiste et de l'autre le Premier ministre. C'est à n'y rien comprendre. Et je lui dis pourquoi? Ben, il pensait que c'était des voyous dans la pratique politique. Ils n'avaient pas de morale, ils n'avaient pas d'éthique. Et, parce qu'on peut être en désaccord avec Hollande, mais on n'a pas de, il n'y a pas de casserole de ce point de vue. Et là, pour moi, c'est une énigme. C'est-à-dire que la décomposition qui produit Macron commence là. Après, il y a le phénomène Macron où là, quand j'ai dit un homme, ça s'empêche, lui, il ne s'empêche vraiment pas. Et là, je suis sidéré. Quand je dis il ne s'empêche vraiment pas, n'oubliez pas ce qu'il nous a fait quand même sur Depardieu. Pour essayer de faire oublier justement le vote de la loi immigration. Faire diversion. Et alors qu'on met toutes les choses sur la table, et c'est l'actrice Anouk Grimbert qui a été formidable dans sa réaction, mais enfin quand même... Il est venu dire c'est l'honneur de la France, Depardieu. Lui qui disait c'est la cause des femmes. Et Anouk Grimbert l'a fait très bien, elle a tourné avec Depardieu, donc elle sait que le talent de Depardieu, c'est pas la question, c'est dire voilà, il y a un système qui a permis une situation d'abus de pouvoir. Eh bien, c'était comme si l'abus de pouvoir présidentiel rendait hommage à l'abus de pouvoir masculin. Et j'ai trouvé ça terrifiant.
Jules,
Peut-être une dernière question sur parce qu'on a parlé de Radio Mille Collines, on a parlé de ce pouvoir de la presse.
On est peut-être trop grave.
Pour créer, ben oui, mais on va justement.
Bah, l'actualité est grave, les temps sont graves.
Les massacres aujourd'hui à Gaza sont pas possibles s'il n'y a pas eu au préalable une déshumanisation des peuples palestiniens, etc. Et des musulmans aussi, ça va avec un contexte français dans lequel vous avez travaillé sur les musulmans aussi. Et on a vu au moment de après le 7 octobre, il y a une crise qui a traversé beaucoup de rédactions en interne. Il y a eu un communiqué de l'AJAR, l'Association des journalistes antiracistes et racisés, qui racontait à quel point c'était difficile de travailler. Il y avait un soupçon qui pesait sur les personnes dont on pensait qu'elles pourraient éventuellement être pro-palestiniennes et qu'on a essayé aussi de... ou alors même un soupçon, quoi, et que ça devenait pénible. Comment ça s'est passé à Mediapart? Est-ce que vous, globalement, vous avez aussi senti que c'était difficile dans plein de rédactions? Vous avez eu des échos. Ça a été un moment assez dur pour la presse à ce moment-là.
Moi, je ne peux pas répondre pour les autres médias. Et par ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Il y a eu une enquête sur des révélations sur les débats au sein du New York Times, au sein de CNN récemment, donc qui montre ça. Nous, à Mediapart...
Comment ça s'est passé
c'est vraiment... Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est un lieu collectif, assez horizontal, avec une conférence de rédaction à 10h le matin qui est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les journalistes. Et on a essayé de tenir tous les bouts. Je l'ai écrit, j'ai écrit beaucoup d'articles, plus que d'habitude. Et pour moi... tenir tous les bouts, et c'est vraiment une question essentielle, c'est ne pas, dans un moment comme ça, d'une part, être aveugle, insensible, donc ne pas voir ce qui se passe, ne pas en prendre conscience, et ne pas en même temps s'enfermer dans un camp qui ferait qu'on ne verrait pas l'autre bout de la réalité. Donc, nous avons été sans aucune ambiguïté sur le sort fait au peuple palestinien, depuis le début et depuis très longtemps. Vous pourrez retrouver des articles que j'ai écrits, la course à l'abîme de l'État d'Israël, une lettre ouverte à François Hollande en 2014, c'était déjà sur Gaza, tout ça, et sur le site de Mediapart. Et donc, nous avons à la fois dit combien tout ça était le résultat, c'est très simple, d'une injustice faite aux Palestiniens depuis 1948. Je l'ai dit dans des vidéos qui sont en accès libre, nous avons fait porter à un peuple qui n'y était pour rien notre propre faute. Nous avons commis un crime contre l'humanité, un génocide contre les Juifs d'Europe. Cela a créé la légitimité de l'État d'Israël, où il y avait déjà un foyer national juif. Il y avait des Juifs qui avaient un mouvement national et l'envie d'avoir leur propre État. Mais nous avons accepté que la création de cet État, qui a été votée par l'ensemble des vainqueurs contre le nazisme, Union soviétique compris, soit accompagnée d'une injustice persistante, d'une négation du droit à l'égard d'un peuple qui ne demande qu'une chose, c'est avoir le droit de vivre normalement, de pouvoir contester ses dirigeants s'il le faut, de pouvoir circuler, de pouvoir se soigner, de pouvoir éduquer. Et ça, non seulement nous l'avons accepté, mais nous avons accepté que depuis 67, cela se fasse au vu de la communauté internationale dans le piétinement par l'État d'Israël de toutes les résolutions des Nations Unies. Et quand je dis nous avons tenu tous les bouts, et là je voudrais dire quelque chose de très important pour moi dans le moment actuel, ne pas être aux côtés du sort des Palestiniens par rapport à la destruction de la Palestine que veut les gouvernants actuels de l'État d'Israël, Netanyahou, une droite extrême, avec une extrême droite qui est identitaire, qui est fasciste pour certaines ailes, hein, faut le dire clairement, hein, qui est repliée sur un refus dramatique de l'autre. Ne pas, au niveau de nos dirigeants, ne pas être au rendez-vous de cela. Aujourd'hui, il y a un petit mouvement. On commence à se dire la famine quand même. Mmh. Il y a une sorte de mouvement émotionnel. Mais ce n'est pas un moment émotionnel. C'est qu'il faut prendre des décisions. Arrêter de livrer des armes, imposer un cessez-le-feu, respecter la demande de la Cour internationale de justice. Arrêter ça. Arrêter ce massacre. Il faut l'arrêter. Et ça concerne tout le monde, y compris les États arabes hypocrites qui soutiennent la cause palestinienne, mais ils ne versent pas des milliards à l'UNRWA. Ils la soutiennent comme une carte dans leur jeu. Mais ils ne sont pas au rendez-vous hein, de l'aide concrète toujours. Donc il faut arrêter ce massacre. Mais il faut arrêter ce massacre en ayant conscience, nous en Europe, que soutenir, comme ils l'ont fait aveuglément les dirigeants actuels de l'État d'Israël, c'est offrir une victoire à celui qui est désigné en Europe comme une grande menace, à Vladimir Poutine. Comment voulez-vous défendre, comme nous l'avons fait à Mediapart, le droit international face à l'impérialisme, bien sûr agressif que représente Poutine, la violation de la souveraineté de l'Ukraine, du droit à l'autodétermination de l'Ukraine, les crimes de guerre qui sont commis en Ukraine. Nous combattons ça au nom du droit international. Et nous offrons à Poutine le cadeau qu'il peut dire au peuple du monde
oui,
entier.
Quelle hypocrisie.
Ah ben vous voyez, ah deux poids deux mesures, ah le double standard, ah le droit international c'est quand ça les arrange, etc. etc. Et ils ne s'en privent pas. Nous ruinons ce sur quoi nous avons construit nous-mêmes nos idéaux. Et donc pour moi, c'est je l'ai dit même avant Gaza, je l'ai dit mais quand on est au rendez-vous du soutien au peuple ukrainien, pas à ses dirigeants, à la diversité du peuple ukrainien, eh bien, on doit faire la même chose avec le peuple palestinien. On ne divise pas ces questions de droit international. Et je vais vous dire, c'est quelque chose de très concret. La décision qu'a prise la Cour internationale de justice, à laquelle Israël n'a pas répondu le 26 février comme elle aurait dû, parce que c'était un délai d'un mois, qui est de dire, on ne dit pas que vous faites qu'un génocide. On dit que vous devez interrompre ce qui se passe parce qu'il y a un risque de génocide. Je dis juste ça. Cette décision est contraignante, normalement. Tous les États des Nations Unies devraient s'aligner sur cette décision pour que des décisions concrètes soient prises. Eh bien, rien n'a été fait par ces États. Mais vous allez sur le site de la Cour internationale de justice et vous découvrez qu'en 2022, il y a eu une procédure semblable sur l'agression russe contre l'Ukraine. Et là, tous les États sont venus et tous les États ont pris des mesures.
Donc il y a une hypocrisie au plus haut,
mais
au plus
c'est,
haut niveau.
C'est terrible. Ça veut dire que vous vous rendez compte, vous êtes africain, vous êtes algérien, vous êtes indien, vous êtes pakistanais, vous êtes le plus grand pays musulman du monde, vous êtes indonésien. Vous dites, mais c'est quoi ces Européens? Ils nous font la morale, mais quand ça les arrange, ils piétinent le droit. Donc pour moi, aujourd'hui, au point où on en est, je le résume d'une formule. Soutenir la politique actuelle de l'État d'Israël, c'est paradoxalement offrir la victoire, le but de guerre à Vladimir Poutine, qui est la fin du droit international, les logiques de puissance, les logiques d'agression.
Une dernière question, Louis Plenel. Vous quittez la présidence de Mediapart dans une semaine, jour pour jour. Qui va vous remplacer et qu'allez-vous faire, vous?
Alors, les Russes sont médiocres, mais les secrets sont bien gardés. Donc, vous saurez qui me remplace exactement le 14 mars, donc dans une semaine.
D'accord.
Ce sera public à ce moment-là.
Ce sera quelqu'un de bien.
Je pense que vous serez agréablement surpris.
Bon, d'accord.
Voilà. Et par ailleurs, bon, c'est une décision longuement mûrie. C'est un passage de témoin en bon ordre. Voilà.
Vous allez continuer à écrire. Vous allez.
Bien sûr, je vais continuer à. Je ne quitte la présidence et la direction de la publication et je vais continuer à intervenir à Mediapart, soit par des articles, soit par des vidéos. Mais c'était important de réussir la transmission.
Bah oui.
C'est pas une question d'âge, hein. Il y a plein de jeunes qui sont très vieux dans leur tête, y compris à la tête du pouvoir aujourd'hui. Bon, non, mais.
C'est juste.
C'est juste. Ouais. C'est pas une question d'âge. J'ai 71 ans et je vois plein de gens qui veulent absolument rester président ou le redevenir à cet âge, voire plus de 10 ans. Je pense à Trump, Biden et plein d'autres. Mais la question, c'est la transmission. Parce que quand des gens. Où que ce soit, s'accroche au pouvoir, il crée une situation où, au bout du compte, s'installe l'idée qu'il n'y a pas de futur sans eux, qu'il n'y a pas de suite sans eux, que forcément, c'est eux qui... Ils empêchent. Ils créent un empêchement. Une personne très célèbre a dit à un moment, faites mieux. On a envie de lui dire, fais mieux, toi. Voilà, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il a dit, faites mieux pour voir s'il y avait des ambitions et du coup dire, il n'y a que moi qui
Est-ce
peux faire.
Est-ce que vous auriez des conseils à donner à la France Insoumise?
Non, il n'y a que moi qui
J'ai l'impression,
faire.
Je ne sais pas.
C'est une façon de dire, il n'y a que moi qui
peux. En termes de transmission du pouvoir.
Il
n'y
a que moi qui peux faire. Ben oui, et donc voilà, nous on a voulu. C'était le plus dur défi de Mediapart. Réussir, c'était difficile. Transmettre, c'était vraiment... Et pour moi, c'est le défi le plus émouvant. Parce que, voilà, on a réussi quelque chose qui ne nous appartient pas. On a transformé une entreprise en bien public. Elle appartient à son équipe. C'est elle qui est maître de son avenir. Et c'est une équipe qui a, pour le gros, entre 25 et 45, 50 ans. Voilà, et ben, pour moi, c'est j'ai souvent dit que Mediapart, c'est l'accomplissement de ma vie. Mais vraiment, ce moment-là, c'est une fierté, c'est une joie.
Merci beaucoup, Edoui Plenel, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter le plateau. Merci beaucoup. Edoui Plenel qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup, Edoui Plenel, après 20 ans. À la tête de Mediapart, qui est venu nous dire cet au revoir absolument magnifique. Merci beaucoup à lui. Chers amis, on va conclure cette émission. J'espère que ça vous a plu. J'étais très heureux de vous retrouver tous les trois autour de moi. J'étais très heureux de vous retrouver, vous, le public. J'étais très, très heureux de vous retrouver, vous aussi, les viewers et les vieweuses. Vous êtes plus de 10 000 à avoir suivi cette émission en live sur Twitch. Bah, je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour continuer à suivre Backseat. On continue cette prog très variée.
Très basée.
Très, très varié. Où est-ce qu'on vous retrouve ?
À France Info.
À France Info.
Sur le web.
Sur le web, d'accord. Les articles sur le sport.
Exactement.
Merci beaucoup.
Pas que quand même.
Ah ouais, tu fais aussi d'autres articles ?
Sport société, quoi.
Sport société, ouais, d'accord.
Exactement.
Ok, les JO, tout ça.
La lutte contre le sexisme, la lutte contre le racisme, ça existe dans le sport aussi.
Ok, d'accord, ça marche. Claire, tu continues ta thèse ?
Oui, mais je vais à Barcelone la semaine prochaine.
Tu vas faire quoi à Barcelone ?
Séminaire de recherche, je choisis bien mes séminaires de recherche.
Eh, pas mal. Non, voilà. C'est bien joué. Tu connais au moins l'intitulé du séminaire ou tu...
Oui, c'est un truc sur l'opposition entre croissance et climat. Voilà.
Ouais, bon, c'est à Barcelone, quoi.
Post-croissance. Okay.
Et bah, bon séminaire à toi. Usul, tu sors une vidéo bientôt ?
Oui, il n'y a pas eu de rhinocéros dimanche dernier, mais pour compenser, parce qu'on avait trop de trucs à dire, on n'a pas bouclé le script à temps. Donc on s'est dit qu'on allait faire un méga épisode cette semaine. Il sera beaucoup plus longue que d'habitude, sur Patron Incognito sur M6. Et c'est une des rares émissions qui parle du travail, qui montre le travail. Et voilà, on essaie de regarder quand même le dispositif, mais en même temps, on voit aussi plein de choses dans cette émission sur la France qui travaille en 2020. Voilà, l'émission a 10 ans maintenant. Donc voilà, on avait beaucoup trop de trucs à dire, donc on a un truc qui va faire 40 minutes, un truc comme ça. Voilà, sort dimanche à 18h sur Blast.
Eh ben merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous le public. Continuez à soutenir Backseat sur Kiss Kiss Bang Bang. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.